7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque semaine et en cette période, en effet, de rentrée scolaire. Eh bien, nous allons nous poser la question, vous poser la question, comment aider votre enfant à vivre une scolarité heureuse de l'école au lycée, c'est-à-dire sortir des conflits liés aux notes, par exemple, à l'évaluation, aider son enfant aussi à se concentrer, à avoir confiance en lui, à mieux s'organiser, à se motiver aussi. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Une enseignante, auteure d'un livre écrit avec son fils qui a vécu une scolarité difficile, tous les deux partagent des solutions concrètes. Alors vous nous appelez surtout dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Catherine Legros, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
J'ai dit que vous étiez enseignante, vous êtes surtout maintenant formatrice d'enseignants, notamment avec la méthode Montessori, mais vous intervenez aussi dans des ateliers avec des enfants,
tout à fait.
Avec des adolescents.
Oui, du CP jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est réjouissant.
Et puis, alors ça c'est vraiment un livre qui n'est pas banal, parce que vous l'avez écrit avec votre fils, qui est avec nous, en liaison avec nous également, Jérémy Legros. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc vous êtes le fils de Catherine, 26 ans, vous êtes charpentier, vous avez obtenu votre bac à 18 ans comme tout le monde, mais en candidat libre, après une scolarité difficile dont vous allez nous parler puisque vous l'avez raconté dans les détails dans le livre et c'est très intéressant de mieux comprendre de l'intérieur comment les difficultés scolaires sont vécues par... un enfant qui est devenu adulte et qui a la même vie que tout le monde et qui est tout à fait dépassé ses difficultés, mais évidemment en dialogue avec votre maman spécialiste de pédagogie. Et donc vous publiez tous les deux « Enfants confiants, parents sereins, des clés pour une scolarité heureuse de l'école au lycée » aux éditions ESF Sciences Humaines. Et puis en fin d'émission, ce sera la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, une série qui est toujours podcastable. Et bien évidemment, vous pouvez nous téléphoner 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On va vous donner la parole, les voisins et les voisines, pour que vous puissiez exposer vos difficultés avec vos enfants dans quelques minutes. Mais d'abord, une question pour vous, Catherine Legros. Comment vous ressentez le climat actuel entre les parents, l'école, les enfants ?
Alors, c'est une vaste question. Déjà, je trouve que j'ai déjà retrouvé les jeunes, les ados là, depuis la rentrée. Je trouve que c'est plus léger quand même avec la levée des contraintes, des barrières liées à la situation sanitaire. Par contre, il y a quand même toujours quelque chose qui n'est pas si simple pour eux. Il y a encore beaucoup de parents qui travaillent à la maison, qui sont pas repartis en présentiel. Et les enfants, les jeunes me disent souvent « Oh ben, quand je rentre à la maison, il y a papa ou il y a maman. C'est pas facile pour les parents. Ils prennent l'espace aussi, l'espace qui n'était pas celui forcément professionnel. Et souvent, ils me disent « J'ai à peine passé la porte. Déjà, avant, maman, elle me disait « Va faire tes devoirs. Maintenant, j'ai même plus le temps de respirer. Et puis, il ne faut pas que je fasse de bruit. » Et puis, voilà. Donc, cette relation entre les parents et les enfants, et elle n'est pas facile pour les parents, hein, loin de là aussi, c'est pas simple. Effectivement. Et puis, la relation entre les parents et les enseignants, elle demande vraiment à se parler. Enfin, elle demande vraiment de la communication parce que on entend bien aussi en ce moment qu'il y a un manque d'enseignants et toute cette tension, elle se répercute et pour avoir une scolarité heureuse, ce triangle entre les trois partenaires, l'apprentissage est fait de relations et c'est cette relation qui est importante à soigner, absolument.
Tension, pression aussi, ouais. De la part des parents sur les enfants, de la part de l'école sur les parents.
Oui, de la part donc des parents, il y a un stress des parents lié aussi à la situation un peu économique, la pression sur les notes. Souvent, les enfants me disent soit c'est va faire tes devoirs ou quelle note t'as eu aujourd'hui. Et parfois, on a tendance à s'arrêter un peu trop facilement sur les mauvaises notes et pas assez sur les bonnes qui vont nous donner des indications sur comment ça s'est passé et comment ils ont fait justement pour avoir des bonnes notes. Et puis, de la pression. En fait, cette pression, le problème, c'est qu'elle se répercute des uns sur les autres, en fait. Mais je ressens aussi une vraie volonté, une vraie envie de travailler sur l'affectif, sur les émotions. Aujourd'hui, c'est clair, et je pense qu'on n'en doute plus. Que si nous-mêmes on se pose la question, quand on n'est pas bien, quand il y a un truc qui nous prend la tête, qui nous prend le cœur, on n'arrive pas à réfléchir. Donc évidemment, on sait bien qu'un enfant, ben, c'est 20 ou 30 fois pire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus à se poser la question, on sait bien que ce côté-là, il est extrêmement important.
Jérémy Legros, vous écrivez dans le livre que votre parcours scolaire a ressemblé à une longue randonnée en montagne.
Oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est une longue randonnée vallonnée, on va dire, avec des montées, des descentes et aussi du plat. Donc, elle a pris un peu toutes les couleurs. Ouais.
Mais vous êtes arrivé à destination.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis allé au bout.
Alors, ce qui compte, c'est pas le but du voyage, mais le chemin.
Oui, parce que le but, il est différent pour tout le monde. Chacun va vers des horizons différents, mais le chemin est long, qui plus est, et donc encore plus important.
Catherine Legros, quand un enfant est confronté à des difficultés scolaires, à des difficultés d'apprentissage, il ne faut pas oublier que c'est une souffrance qui est partagée par les parents. Vous parliez de pression, de tension, d'inquiétude. Mais il y a aussi cette culpabilité qu'éprouvent les parents dans ce cas.
Ben oui, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et ça se répercute, mais sur tous les plans de la vie, en fait. Ça se répercute, parce qu'à l'école, il n'y a pas effectivement que les apprentissages scolaires qui se jouent. Il y a toute la relation sociale avec les autres enfants. Et dès qu'on est en difficulté, eh ben, ça abîme énormément la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a une difficulté à être un petit peu aussi, à se sentir un peu comme les autres. Donc il y a cette souffrance vraiment d'estime. Et puis après, dès que les enfants grandissent, c'est un grand sujet. En fait, dès qu'on rencontre les copains, dès qu'on est à la sortie de l'école, on discute de combien ils ont eu, on travaille sur les devoirs, combien de temps t'as passé pour réviser les mots, pour réviser la dictée. Et vous faites tout petit ou toute petite parce que vous vous dites, pourquoi moi ça prend 3 quarts d'heure? Et alors que chez les autres, ça prend 5 ou 10 minutes. Et donc là, oui, on se dit, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que j'aurais dû faire, effectivement. Et ça se répercute sur toute la famille parce qu'on n'est pas des super-héros et qu'il y a des jours, ça passe bien. C'est chouette, la vie avec l'Edouard, on adore. Puis il y a des jours, c'est beaucoup plus difficile.
La question du rythme de l'apprentissage, de ceux qui vont vite, de ceux qui vont lentement, de ceux qui vont moyennement, vite ou lentement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le livre. Jérémy Legros, vous étiez lent. Comment ça se passait? Quelles étaient vos principales difficultés d'apprentissage qui à la fin vous plaçaient dans un vrai stress?
Moi, j'avais beaucoup de lacunes niveau concentration. En fait, me concentrer sur un cours entier, c'était un vrai exercice très compliqué. Et ce qui m'arrivait généralement, c'était de décrocher sur la concentration. Donc, je perdais plusieurs minutes du cours. Et puis, me remettre dedans et rattraper ce que j'avais perdu était très, très, très compliqué. Ce qui fait que, du coup, j'étais lent et les choses n'avaient plus vraiment de sens, quoi. Donc, ça partait un peu dans tous les sens. Et plus on avance et plus ça s'intensifie en rythme. Et après, il faut prendre des notes, il faut écouter. Donc, tout s'additionne. Et là, ça devient vraiment très compliqué.
Et quand vous dites très compliqué, ça voulait dire que vous étiez totalement en stress?
J'étais totalement
en stress. Il y avait une action paralysante de ce stress ensuite?
Oui, et puis jusqu'au moment où on lâche, quoi, parce qu'on commence à comprendre comment les choses se passent. Et puis, on se dit, de toute façon... C'est trop compliqué. En plus, les choses vont de plus en plus vite. Et dans tous les cas, je leur ferai le soir à la maison. C'était un peu ma vision des choses. Donc oui, je me battais au début et puis au bout d'un moment, bah, je lâchais et puis je pouvais plus revenir dessus.
Oui, on comprend bien cette mécanique, difficulté de se concentrer, donc ensuite lenteur pour apprendre, pour exécuter aussi, pour faire des devoirs, pour exécuter un contrôle des connaissances, donc stress, donc paralysie,
et puis voilà,
on est enfermé.
Exactement, et puis on lâche, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes, les enfants qui souffrent le plus, entre guillemets, sont plus ceux qui ont encore plus de mal à tenir leur attention, parce qu'en fait, ils perdent trop, et ça tue la motivation de devoir recommencer le soir.
On va bien sûr en reparler, hein, de cette attention, de cette concentration nécessaire à tout apprentissage. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On va donner la parole à Mariama qui nous appelle d'Ottawa au Niger. Bonjour Mariama.
Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute Mariama, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Oui, en fait moi j'aimerais savoir comment motiver mon garçon de 9 ans à apprendre. Parce que faire les devoirs avec lui, c'est vraiment pas facile.
Pourquoi c'est pas facile avec votre fils de 9 ans, Mariama? Racontez-nous.
Il n'est pas trop motivé à apprendre. Avec sa sœur, c'est très facile, ça va vite. Mais avec lui, je prends 3 fois plus de temps avant de finir les devoirs.
Alors, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un petit point avec lui en lui disant tous les enfants ont envie d'être en harmonie et en paix avec leurs parents, de lui dire que vous pouvez ensemble mettre en place comme un petit contrat, de dire que de toute façon, les devoirs, il faut les faire et laisser deux possibilités. Est-ce qu'on les fait tout de suite quand il rentre? Est-ce que établir un petit contrat avec lui? Et lui montrer qu'en fait, finalement, avec ce contrat, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on s'y met, si on écrit ce contrat, est-ce que tu veux une petite pause? Est-ce qu'à quelle heure on les fait? On donne un petit temps. Eh bien, il va voir tout de suite, en fait, le bénéfice. Alors, ça va pas être... C'est vraiment, il faut le tenir, ça. Et que vous, dès que ça se passe bien, il faut mettre en lumière ce que ça s'est bien passé. C'est-à-dire que, surtout les jours où ça se passe bien, vous tapez dans la main, insistez sur le fait que tu as vu, dès que tu t'y mets, là, regarde, on n'a pas passé beaucoup de temps. Regarde le temps que tu as pour faire autre chose. Et quand c'est plus laborieux... on fait ce qu'on peut, mais on ne met pas en lumière ça. Mais remettre en lumière à chaque fois que ça s'est bien passé. Et à chaque fois, anticiper même avant les devoirs pour mettre en avant le bénéfice pour vous comme pour lui. Et surtout pour lui, du temps que ça va dégager et du fait qu'il sera content de lui. Et moi, je suis vraiment favorable quand les enfants ont du mal à s'y mettre et que vous devez les aider à établir ce contrat. Et souvent, les enfants me disent, quand on a défini une règle, et il faut s'y tenir, mais une règle qui vous respecte vous aussi dans votre rythme, dans votre organisation, ils me disent, de toute façon, je sais que c'est comme ça, au moins, j'essaye pas d'user maman pour faire autrement, parce qu'on a décidé. Et comme ce rituel se met en place, et comme après, ça les sécurise aussi, ils ne luttent plus pour faire autrement. Vraiment, ça fonctionne très très bien dans ce sens, et vraiment mettre en valeur quand ça s'est bien passé, vous réjouir ensemble en disant tu vois c'est trop bien quand ça se passe comme ça, on est content de soi et tu as du temps pour toi.
Mariama, votre fils il sort à quelle heure de l'école?
Ici c'est à 14h30.
Oui. Et quand il rentre à la maison, est-ce que y a une pause ou vous commencez les devoirs? Comment ça se passe?
Non, on fait d'abord une pause, on commence les devoirs vers 17h.
Et il y a quoi dans cette pause?
Il fait une sieste.
D'accord.
Donc après le déjeuner, il fait une sieste.
C'est bien, ça lui permet de consolider sa mémoire.
Oui, après la sieste, donc on prend le bain et on commence les devoirs.
D'accord, donc il n'y a pas d'écran, pas de jeu sur le téléphone.
Non,
bah c'est très bien parce que en fait, c'est comme un sportif. Hein, il faut un petit échauffement avant de se mettre aux devoirs. Il y a des choses qui donnent plus du tout envie de faire les devoirs. C'est quand les enfants, et ça ils me le disent aussi, c'est quand ils se mettent devant les jeux vidéo qui sont notamment réaction-réaction ou quand ils se mettent devant les écrans. Là, après du tout, il n'y a plus du tout envie d'aller se mettre aux devoirs. Donc, il y a aussi tout ce qui est permis, entre guillemets, tout ce qui est invité avant de faire les devoirs. De mettre dans ce petit contrat aussi toutes les choses qu'on peut faire. Et après, quelque part, bah, il y a ce petit clin d'œil ou cette petite récompense, entre guillemets, du temps qui nous reste pour faire quelque chose qui fait plaisir à tout le monde.
Après les devoirs, après, ça s'est bien passé.
Voilà.
Mariama,
si c'est possible. Moi, c'était pareil. C'est-à-dire que les devoirs, c'était très compliqué. Il fallait se motiver et il fallait s'y mettre. Et moi, le gros problème que j'avais, c'était le manque de sens. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. J'avais le sentiment que ça ne servait à rien, que... Voilà, on est toujours rabâché, vous utilisez un compas à l'école, vous vous en servirez plus jamais après. Et voilà, donc on avait du mal à savoir qu'est-ce qui nous sert réellement et qu'est-ce qui nous sert pas. Donc moi, s'il y avait quelque chose qui m'aidait, c'était de trouver un sens à ce que je faisais. C'est pas toujours facile avec toutes les matières, mais par exemple en maths, il faut trouver un parallèle, additionner certaines choses. Et comprendre que à l'extérieur de l'école, ça sert à certaines personnes. Mmh. Et moi aujourd'hui dans mon travail, je retrouve énormément de choses qu'on a appris à l'école.
Vous êtes charpentier, donc forcément, il vaut mieux avoir des bases en géométrie quand on est charpentier.
C'est ça. Ouais, en calcul, en tout, il y a tellement de choses. Et voilà, aujourd'hui, je redécouvre ça en pensant que je m'en servirai plus jamais de.
Mariama, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, de mon côté, je ne sais pas si vous avez entendu Mariama au début de l'émission, Catherine Legros disait, les parents, c'est tous les mêmes, hein, on est tous pareils, on demande à l'enfant quand il rentre, fais tes devoirs,
et quelle note t'as eu.
Et c'est vrai qu'on a tous eu ce réflexe, alors qu'en fait, on devrait demander, qu'as-tu appris aujourd'hui ?
Oui, puis juste un petit sas de décompression. Moi, je propose, c'est vraiment les quelques minutes où on se retrouve, on est content de se retrouver, si l'enfant est petit, on se calme, on s'embrasse et déjà là et s'il a quelque chose à déposer, une contrariété de la journée, il va pouvoir la déposer, il sera bien plus disponible après et on est là, on se retrouve et c'est chouette et c'est juste quelques minutes.
Mariama, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, je suis là, oui.
Vous avez quelque chose, vous voulez réagir ou vous avez
une autre? Non, c'est bon, j'ai compris.
Alors moi j'ai une petite, je peux vous rajouter un tout petit quelque chose. J'ai eu quelquefois des élèves qui étaient vraiment mais qui ne voulaient plus faire leurs devoirs et j'ai réussi à les motivés en leur disant, est-ce que dans 10 ans, tu souhaites que ce soit tes parents qui prennent les décisions pour toi ou toi ? Ah, ils me disent, bah non, hors de question, hein, c'est moi qui prendrai les décisions. Et je leur dis, comment on fait pour prendre des décisions ? Puis on a réfléchi sur les décisions qu'ils auraient à prendre. Ils m'ont dit, on va réfléchir. Et je lui dis, tu vas réfléchir comment ? Avec mon cerveau. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau ? Il y a des neurones. Et comment ils font, les neurones ? Ils se connectent. Tu vois, je lui dis, aujourd'hui, quand on fait des maths, on ne voit pas toujours le sens, mais ça sert à connecter des neurones qui, un jour, et aujourd'hui déjà, elles se renforcent, ces connexions, et elles te permettront de réfléchir, de prendre les bonnes décisions et surtout d'être autonome. Et ça, présentons ça à nos enfants et ils se diront, oui, chouette, j'ai envie de prendre les décisions moi-même.
Mariama, merci à vous en tout cas de nous avoir appelés. Et puis, bonne journée à Tawa, au Niger. Merci à vous. Ouais. Et bonne chance pour les devoirs avec les enfants.
Oui, bonne journée, Mariama.
Pas d'énervement, si on peut, si on peut. Je vous lis le message de Nice, qui est enseignante d'anglais au collège à Abomey-Calavi, au Bénin. Alors, elle a deux élèves dans ses classes de 11 et 14 ans qui lui posent problème. Il y a un élève qui habite chez sa tante, et c'est une fille d'ailleurs, elle est tout le temps en retard parce qu'elle doit déposer les enfants de sa tante à l'école primaire qui est éloignée du collège, et elle ne montre pas d'intérêt pour le cours d'anglais. Je lui ai dit qu'il faut qu'elle pense à ses études. Elle est préoccupée, comment je peux l'aider, sachant que je n'ai pas le droit de m'adresser aux parents. Et puis, la deuxième élève de 11 ans vit seule avec sa mère et ses frères et sœurs. La maman a du mal à payer la scolarité, elle souffre pour sa propre fille. Comment un parent qui n'est pas heureux peut-il aider un enfant dans sa scolarité ? Alors, vraie question.
Hein. Oui. Mmh. Bah, déjà, pour ce premier exemple, déjà de lui dire qu'on comprend qu'elle arrive en retard, qu'elle a une charge et que, eh ben, que c'est, ça doit être compliqué pour elle, mais qu'elle peut compter sur nous. En fait, de sentir déjà que ça, qu'on est reconnu dans ce qu'on vit et qu'on peut compter sur l'adulte.
Donc faire une alliance avec
l'idéal,
finalement.
Voilà, c'est ça. Et de lui dire comment je peux t'aider. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que toi, tu as des idées sur la façon dont je peux faire, moi, pour t'aider? Et déjà, rien que ça, elle se sent reconnue plutôt que de sentir une pression à peut-être se faire gronder d'arriver en retard. Et c'est elle qui a peut-être aussi les clés pour demander à sa prof qu'est-ce qu'elle aimerait bien, en fait, finalement. Et puis, en tant que parent, c'est vrai que pour que nos enfants se mettent en route, il faut qu'ils aient de la confiance et de l'estime. Et quand, juste de prendre un peu d'attention, cette attention, c'est de l'amour pour nos enfants. Donc, c'est des câlins, de la présence, des clins d'œil, même quand c'est difficile, tous ces petits espaces-là leur renverront qu'ils ont de l'estime, enfin, qu'ils ont de la valeur à nos yeux.
Malgré
la difficulté. En fait, vraiment de se dire qu'aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur offrir ces petits temps d'attention pour qu'ils construisent leur estime d'eux-mêmes et leur confiance, qui est le carburant de l'apprentissage. Mmh. Puisqu'en fait, une fois qu'ils pourront se reposer là-dessus. Et tout ça, c'est dans toutes les petites choses du quotidien, en fait. Dans toutes les petites choses qu'ils vont faire par eux-mêmes, dans les petites actions du quotidien, de la cuisine, à s'habiller soi-même. Enfin, des choses toutes simples, en fait, à partir du moment où ils vont sentir qu'ils sont capables de ça et que nous, on va mettre en lumière cela, ils auront le cœur plus léger et plus en joie et plus capable d'avancer.
Les encouragements, Jérémy Legros, vous en avez eu beaucoup à la maison avec votre maman, évidemment, qui était spécialiste de pédagogie, mais pas forcément avec les profs. Hein. Parce que dans le livre, vous racontez, sur une première dictée en sixième, il y avait une prof qui avait écrit « Mais il vient d'où cet enfant? Il faut appeler les pompiers ». Comment un prof peut écrire un truc pareil sur une copie?
Bah ça, j'ai pas la réponse, hein. J'ai toujours pas. toujours un peu bouche bée par ce commentaire. Non, des encouragements, il y en a pas eu énormément à l'école. Après, je pense que on est tous différents, tous les élèves sont différents, les profs doivent s'adapter. Est-ce que les problèmes scolaires étaient moins mis en lumière à l'époque de ma scolarité? Ceci étant, je pense qu'il y a des profs quand même qui... Je ne sais pas si c'était de la méchanceté. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas les réponses, mais qui...
En tout cas, un manque de patience de la part des enseignants qui estiment que quand la charge est trop lourde, que le retard, que les difficultés d'apprentissage sont telles qu'ils se sentent aussi parfois impuissants.
Oui, et même si on leur disait qu'il y avait beaucoup de temps à passer à la maison, qui avait l'impression que parfois j'étais une mère qui surcouvait son enfant et qui lui trouvait plein d'excuses et que c'était quand même un gros fainéant, en fait, en gros.
Les voisins, les voisines, n'hésitez pas à nous appeler pour parler tranquillement des problèmes de vos enfants, petits soucis d'apprentissage, grande inquiétude des parents. Vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On va évoquer dans quelques instants tout ce que vous pouvez faire avec votre enfant pour renforcer ses capacités naturelles d'attention. Parce que, comme le disait Maria Montessori, grande pédagogue, un enfant concentré est un enfant immensément heureux. Et on se retrouve juste après la Cora et la voix de Séni Camara chez 7 milliards. We'll be right back.
nek na sa wal holen ni ma yalla binde bokul ak ni la yalla binde ak lenu ko yalla binde bokul ak ni la yalla binde.
Tout est en place pour apprendre à se concentrer avec la chanson de Séni Camara, Boulot. Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et nous parlons éducation aujourd'hui avec deux auteurs, une mère et son fils. Catherine Legros, Jérémy Legros, vous publiez « Enfants confiants, parents sereins, des clés pour une scolarité heureuse de l'école au lycée ». Alors il faut qu'on parle effectivement de la concentration parce qu'on a une auditrice qui nous appelle, qui est en direct, c'est Arlette qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Arlette.
Bonjour Arlette.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Je vais rappeler aussi le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent nous appeler. 33 7 64 45 51 41. Nous vous écoutons Arlette.
Mon fils de 11 ans, il entre au collège. Il n'est pas concentré à mémoriser les leçons. Aux heures de lecture à la maison, il passe son temps à faire bagarrer les crayons, les stylos, les gommes, les tailles crayons et les bouts de papier. Donc, aucune leçon mémorisée à la fin. Ses résultats ne sont pas fameux comparés à ses pairs. Pourtant, il reste concentré des heures devant la télé et aux jeux vidéo. Que faire pour améliorer cette situation? Merci.
Et merci d'avoir posé cette question. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Alors, peut-être on va commencer par la fin. Arlette nous dit... Pourtant, il peut rester concentré des heures devant la télé, devant des jeux vidéo.
Oui, alors,
s'agit-il de concentration ?
Mais non, c'est pas la même chose. C'est vrai que la concentration, notamment pour faire ses devoirs, c'est vraiment savoir résister à tout ce qui m'entoure et mettre des choses dans ma tête. Les jeux vidéo, c'est plus une attention visuelle qui demande de l'action-réaction et qui ne demande pas de l'analyse, du sens, de la logique. On n'est pas sur
c'est
le...
C'est le jeu qui attrape votre cerveau
voilà, exactement.
Sans qu'on ait des fort à faire
Oui, on est plus dans la partie impulsive du cerveau, en fait. Et c'est très addictif, en fait, pour les jeunes. À leur âge, c'est déjà pour nous, on se rend bien compte que les écrans sont très addictifs, mais pour eux, c'est encore bien, bien plus addictif. Alors, déjà, pour l'attention, il y a vraiment une chose extrêmement importante, c'est vraiment les besoins physiologiques, c'est veiller au sommeil, parce que le sommeil, c'est la clé de tout. Le sommeil, l'alimentation, on sait que l'excès de sucre est pas favorable à l'attention. Et puis, proposer des alternatives aux écrans. Ensuite, après, si c'est difficile pour les devoirs, s'il apprend une leçon, s'il a besoin de tripoter des choses et de bouger, vous pouvez le guider dans le mouvement, par exemple. Déjà, souvent, ils sont assis au bureau en se disant « bon, allez, je lis ma leçon », mais ils lisent sans vraiment lire, de façon un peu automatique. Ce que vous pouvez faire, c'est l'accompagner au départ pour que ça devienne après un petit automatisme, en se disant « bon, allez, on s'y met, je pense que cette leçon en autant de temps, en cadrant le temps pour le motiver, je pense que c'est possible. Et aidez-le à prendre la leçon. Moi, je leur dis, mets des lunettes de détective. Je ne lis pas simplement pour lire, tu sais lire. Mais quel est le sens de ça? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que le prof? Tiens, je me mets comme un détective. Quelles questions le prof pourrait me poser? Et à ce moment-là, ça rend une lecture qui est plus active et qui va le mobiliser un peu plus. Et vous pouvez lui proposer d'aller marcher et de parler aussi à voix haute, ensemble de trouver les questions. Et puis, il va dans une autre pièce, il revient, il vous pose les questions. Et petit à petit, comme ça, au lieu d'être un peu passif à lire sans vraiment être connecté à ce qu'il dit, il verra en plus que ça fonctionne plutôt bien. Rien n'empêche, quand on apprend une leçon, de bouger son
c'est
corps.
C'est ce que j'allais vous demander.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Parce que votre fils de 11 ans, bon, c'est un garçon, Arlette. Hein. Est-ce qu'il
oui.
bouge suffisamment quand il rentre du collège?
Il est très agité.
Il est très agité, mais...
Beaucoup.
Oui. Mais oui. Est-ce que, par exemple, il va faire une partie de foot en rentrant du collège?
Oui, il joue beaucoup au ballon avec ses camarades.
Bon, ben ça, c'est super. Favoriser vraiment tous ces jeux avec, avec les copains et qui réduisent un peu ces écrans. Et si, par exemple, alors nous, on n'a pas tendance non plus à favoriser à ce que nos enfants travaillent avec un copain ou avec un copain parce qu'on pense toujours qu'ils vont faire autre chose. Si vous sentez qu'il a un bon copain qui passe bien son temps dans ses devoirs sans y passer trop de temps, pourquoi pas proposer qu'ils fassent du foot et qu'après, ils passent un petit temps à faire leurs devoirs ensemble. Comme ça, il y en a un qui fait le prof, il pose les questions. Et entre pères, c'est souvent plus facile qu'avec le parent pour qui aussi les choses sont un peu plus anciennes. Ça, c'est aussi une idée pour qu'ils se concentrent un peu, qu'ils redonnent du sens et qu'il y ait un peu de plaisir. Et vraiment veiller à tous ces besoins un peu physiologiques, mais ne pas lâcher le sport parce que c'est un vrai vecteur pour stimuler l'attention. Mmh. Ouais.
Jérémy Legros, vous qui avez été confronté à pas mal de difficultés scolaires, est-ce que ça a été difficile pour vous d'être comparé à d'autres camarades de classe qui réussissaient mieux ?
Bien sûr. En réalité, on se compare tout seul. On se compare nous-mêmes aux autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personnes extérieures pour nous mettre en comparaison. On se compare jamais à soi-même. C'est pour moi le plus gros défaut du système scolaire aujourd'hui. C'est qu'on est constamment en train de regarder ce que les autres ont fait et à le mettre en parallèle avec ce que nous, on a fait. Alors qu'on devrait mettre en parallèle ce que nous, on a fait avant
et ce qu'on a fait après. On ne se compare jamais à soi-même, alors qu'on pourrait se dire, tiens, j'étais bien meilleure cette semaine que la semaine dernière. Et pourtant, ça ne nous vient pas à l'idée. Vous nous appelez. Alors, Arlette, merci à vous de nous avoir téléphoné. Nous prenons d'autres auditeurs au 33 7 64 45 51 41. Djibrine est en ligne avec nous de Garoua, dans le nord du Cameroun. Bonjour Djibrine.
Bonjour Emmanuel.
On a parlé un petit peu du sommeil tout à l'heure. Vous avez justement un problème pour faire dormir vos enfants de 4 et 5 ans. Expliquez-nous.
Ok, Emmanuel, lorsqu'ils rentrent de classe de 12h30,
ouais.
Et ils sont toujours en train de jouer. Lorsqu'on leur demande d'aller se reposer pour faire une petite sieste, ils refusent carrément. Mm-hmm. Et leur maman est obligée des fois de les un peu intimider pour qu'ils puissent aller se coucher. Et là même, c'est difficile pour qu'ils arrivent à dormir.
Parce que
je voudrais savoir...
L'école s'arrête à 12h30. Est-ce qu'elle reprend ensuite ou pas ?
Non, même pas. Elle ne recommence pas.
D'accord.
Parce qu'ils sont à la maternelle.
Bien sûr.
Alors, c'est vrai qu'en plus, pour s'endormir, il faut un peu se mettre en veille, entre guillemets. Il faut commencer un peu à calmer l'environnement, que ça soit un peu la lumière, un peu toutes les excitations. Moi, je vous invite à essayer petit à petit, déjà à veiller aux écrans, qu'il n'y ait pas trop de surexcitation avant, quelques temps avant le moment où vous souhaitez qu'il fasse la sieste, à instaurer de façon rituelle un petit temps calme où vous pourriez travailler la respiration. Vous pouvez trouver facilement des petites applications de cohérence cardiaque où il y a un livre qui est très chouette pour l'âge de ces enfants, c'est Calme et attentif comme une grenouille. Vous pouvez utiliser le CD qui est très bien fait pour les enfants, qui leur permet de se poser. Et parce que parfois, cette surexcitation, elle traduit quand même une fatigue, en fait. Parce que les enfants fatigués, ils sont parfois surexcités.
Est-ce qu'il existe aussi parfois des chansons qui peuvent endormir les enfants?
Oui, mettre une musique plus douce.
Ou chanter avec l'enfant, ou lire une histoire
en se blottissant. En tout cas, aller dans toutes les directions. Faire un petit massage, faire des petites postures un peu de yoga.
C'est-à-dire une préparation
exactement.
Au sommeil, finalement. Hein.
Si nous, on allait se mettre au lit après, sans cette préparation, évidemment, on n'y arriverait pas non plus.
Il faut le rappeler, c'est important la sieste pour que ces enfants, finalement, puissent bien intégrer ce qu'ils ont appris le matin
et
à l'école.
Et consolident tout à fait leur mémoire. Tout à fait. Pendant cette sieste, leur mémoire se consolide. Donc, c'est vraiment extrêmement important.
Est-ce que la réponse vous convient, Djibrine ?
Oui, elle me convient. Je voulais donc arriver à ce que Catherine venait de dire. Est-ce que s'ils n'arrivent pas à dormir à ce moment, ça n'aura pas de conséquences sur leur mémoire à long terme ?
Non, non, non. Petit à petit, non, vous inquiétez pas. Le cerveau est plastique, donc pas de pression. Mettez petit à petit toutes ces choses-là en place et ça va bien se passer.
Merci à vous, Djibrine, de nous avoir appelés. Il y a des enfants qui, de toute façon, dorment moins que d'autres.
Tout à fait. Ils ont la chance, en fait. Les adultes aussi, ceux qui ont moins besoin de sommeil, ont beaucoup de chance.
Une question d'Habib, qui a un neveu de 11 ans en classe de CE2. Il est à N'Djamena, au Tchad. Mon neveu est passé en CE2 alors qu'il ne maîtrisait pas bien le CE1. Comment l'aider pour qu'il rattrape son retard, pour ne pas redoubler cette année son CE2. J'aimerais donner la parole à Jérémy Legros, le fils de Catherine, parce que vous avez été confronté au redoublement, vous avez été confronté à l'accumulation du retard qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus comment faire face.
Exactement. Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver du sens à ce qu'on fait. Franchement, moi, c'est vraiment la leçon la plus importante que je tire de ma scolarité. Parce qu'à partir du moment où on a un sens à ce qu'on fait, alors on comprend pourquoi on le fait et ça nous donne déjà plus envie de le faire. Et dans cette spirale-là, ça nous aide à avancer et pourquoi pas à rattraper du retard. Moi, j'ai fini par redoubler parce que, comme vous l'avez dit, il y avait une grosse accumulation de retard. Et j'ai quand même envie de dire que le redoublement a été une bonne chose pour moi pour finir jusqu'au bac. Donc, des fois, le redoublement peut être une chose positive et plutôt que d'avancer tous les ans et de continuer à accumuler ce retard.
Parce que vous le racontez dans le livre, Jérémy, pendant des années, vous alliez à l'école, pas pour apprendre et pour être heureux d'apprendre, mais pour avoir de bonnes notes.
Bien sûr. Bien sûr. C'est clairement ça. C'est-à-dire que plus on avance et plus on progresse dans le programme et plus on va dans des choses compliquées. Et si on n'a pas déjà ce sens-là au début, alors ça devient très compliqué de comprendre pourquoi on va à l'école. Et y a tout ce côté social, comme on disait tout à l'heure, de se comparer aux autres. Ça marche pour le scolaire, mais ça marche aussi pour l'extrascolaire dans la cour de récréation. Et donc tout ça est très compliqué quand on est jeune à assimiler, à comprendre et à trouver un sens et à réussir à ce que ça soit tous les jours le mieux possible.
Dans la question d'Habib pour son neveu de 11 ans, Catherine Legros, il y a le fait que bon, il est passé dans la classe au-dessus alors que bon, lui, il estime que son neveu n'avait pas le niveau. Est-ce qu'il peut rattraper tout en apprenant ce qu'il faut apprendre en classe de CE2 avec les autres élèves? C'est-à-dire que c'est double tâche quand même.
Oui. Alors, moi, c'est important de comprendre que la mémoire, pour que les choses passent et s'intègrent en mémoire à long terme, il faut de la réactivation. La bonne nouvelle, c'est que c'est des petites réactivations. Et moi, je suis fan, je le dis dans le livre, de toutes les petites cartes avec les questions-réponses plutôt que des longues leçons. Et donc, surtout pour un enfant comme ça qui a accumulé un peu de retard, vous pouvez énormément l'aider en reprenant toutes les choses qui sont un petit peu difficiles. Vous faites des petites cartes sur des feuilles, fiches, Bristol. Vous mettez la petite question qui est difficile, la réponse de l'autre côté avec un petit dessin, le petit mot. Et ces petites cartes-là, on joue tous les jours. Et les enfants rentrent très vite dedans. On joue 5 minutes sur les choses qui ont du mal, qui ne sont pas encore bien intégrées. Et pas de panique. Le cerveau, il ne peut pas résister à ça. Et tous les jours, 5 minutes, vous comptez 5 minutes par jour pendant un an, combien de nuits de mémorisation ça fait. Et au fur et à mesure, il y a des petites cartes, ça y est, c'est intégré. Et bien, on fait des petites boîtes où là, c'est passé, on peut se le dessiner un cerveau. Et puis, petit à petit, on se voit rattraper. C'est surtout comprendre, et souvent on passe beaucoup de temps à expliquer, et on oublie qu'il faut réactiver. Il vaut mieux passer moins de temps, y revenir régulièrement par des toutes petites piqûres de rappel, et plutôt que de redire et redire, parce que nos enfants nous perdent quand on parle trop, vous sauvegardez votre petite explication, la petite astuce que vous avez trouvée, le petit mot rigolo qui les a aidés à comprendre, ça vous le sauvegardez sur la petite carte qui va vous servir toute l'année. Et après, même les enfants, vous leur dites, tiens, t'as ces cartes-là révisées, tu vas mettre tes doudous dans ta chambre et tu leur fais réviser. Et là, c'est gagné. Et ils rentrent dedans, c'est vraiment hyper puissant.
Votre livre est écrit à quatre mains, tous les deux, Catherine Legros, Jérémy Legros. Mère et fils, c'est pas si courant quand même. Qu'est-ce que vous avez découvert de l'autre, Jérémy Legros, sur votre maman en écrivant ce livre?
J'ai découvert toute la partie technique que maman a créée après la fin de ma scolarité, c'est-à-dire toute l'évolution de ce qu'elle a continué à faire. Après,
sur la pédagogie, vous voulez dire, hein.
Oui, sur la pédagogie, sur tous les petits exercices et tout ça, enfin sur tout ce qui a continué à évoluer après que moi j'ai arrêté l'école. Et voilà, après on a ça a été sympa de se remémorer un peu d'avoir écrit tout ça
et d'utiliser vos échecs pour en sortir des solutions finalement.
Voilà, ouais, exactement.
Et pour vous, Catherine, le gros?
Oui, c'était une super belle aventure. On se l'était tapé dans la main quand il était en terminale, de temps en temps, il avait une baisse de motivation. On s'était dit, allez, tu vas avoir ton bac, et quand tu auras ton bac, on va écrire à deux chacun notre partie. Et puis c'est très émouvant parce que quand Jérémy a quitté l'école pour passer son bac en candidat libre, beaucoup nous disaient vous allez vous perdre, vous allez...
Il l'aura jamais.
Il l'aura jamais. Et puis vous allez vous disputer. Effectivement, tout au long de sa scolarité, j'ai pas dû toujours être facile. Et ça, c'est la vie de maman. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un super-héros non plus. Par contre, les choses pour conclure un petit peu sur notre équipée, j'espère que je pense que Jérémy sera d'accord, c'est que on avait quand même une petite routine, un rituel, c'est ne pas se coucher fâché. Enfin, en tout cas, moi, si ça m'arrivait, évidemment, comme toute maman, de m'énerver, comme c'est le cas, ça peut arriver. Et puis de garder l'humour, on avait beaucoup d'humour dans le travail, on trouvait des trucs pour bien rigoler, pour apprendre des choses, et ça, je pense que c'est important.
Et c'est un livre très touchant avec une foule de conseils pratique pour les parents. Merci à tous les deux. Donc, enfants confiants, parents sereins, des clés pour une scolarité heureuse de l'école au lycée. Merci à vous,
merci
Jérémy Legros, Catherine Legros, d'avoir été avec nous. Et merci à tous les voisins et à toutes les voisines pour vos messages, pour vos questions. Dans quelques instants, ce sera la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, juste après une très jolie version du tube de Pharrell Williams, Happy, réinventé par Camille et le trio SR9. I might seem crazy, what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, gotta go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along. Just fine. No offense to you, but don't waste your time. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Cause I clap along if you feel like happiness is the truth. Cause I clap along if you know what a happiness is to you. Cause I'm happy. Clap along if you can't nothing bring me down, my level's too high. Bring me down, I can't nothing bring me down. Bring me down, bring me down, I can't nothing bring me down. My level's too high. Bring me down, I can't nothing bring me down. On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique que nous retrouvons chaque semaine et en podcast aussi. Ibrahima Giroud, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue à Dakar et aujourd'hui vous souhaitez nous parler des troubles émotionnels dans la famille, c'est-à-dire toutes ces difficultés chez les parents ou chez les enfants pour donner, pour recevoir et même lire, comprendre les émotions des uns et des autres. Ça donne parfois du coup des dialogues très compliqués dans les familles. Vous parlez même de dyslexie émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ?
Emmanuel, il est vrai que dans un grand nombre de familles, malheureusement, on a des problèmes pour exprimer ses émotions, des émotions en général. Et ce n'est pas toujours par pudeur. Hein. On voit des troubles à différents âges et de manière différente entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes, dans la façon dont ça peut s'exprimer.
Ça veut dire que les hommes et les femmes ont des difficultés émotionnelles différentes ?
Il est possible que nous ayons en fait les mêmes types de difficultés émotionnelles, mais qu'à cause des codes, des modèles culturels, on voit des manifestations différentes entre les hommes et les femmes. Par exemple, Emmanuel, les manifestations hystériques sont assez rares chez les garçons. En revanche, l'anorexie touche de plus en plus les garçons, même si elle touche plus majoritairement les jeunes filles. Peut-être même que les garçons, en réalité, souffrent doublement avec l'incapacité d'exprimer leur souffrance.
Et il y a aussi dans certains cas des personnes qui présentent des difficultés à lire, à comprendre les émotions des autres, ce que vous appelez la dyslexie émotionnelle. Comment ça se manifeste ?
Tout à fait, Emmanuel. Certains adultes se montrent de plus en plus imperméables aux émotions des enfants. Par exemple, quand les parents trop occupés devant leur smartphone ne sentent pas la présence des enfants.
Ouais.
Et ils ne ressentent même plus, Emmanuel, la présence des bébés. Pour vous montrer la gravité de la situation, nous savons que les bébés ne demandent pas d'autorisation pour demander de l'attention. Et pourtant, à cause de l'addiction des parents à leur portable et à cause de l'absence de réponse émotionnelle, de regard, de petits gestes de tendresse, à cause de leur indisponibilité à la communication, une indisponibilité devenue désormais chronique, les enfants cessent d'avoir des attentes. C'est là le pire.
Oui.
Ils cessent d'avoir des attentes émotionnelles et affectives vis-à-vis de leurs parents.
Ou au contraire, ils vont se mettre à pleurer énormément. Hein. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est terrible pour les bébés.
Tout à fait. Et imaginez, Emmanuel, qu'ils grandissent dans ce contexte avec une partie de leur personnalité, une grande partie, complètement inhibée ou sous-développée.
Sur le plan des émotions, si leurs propres parents ne sont pas capables de lire leurs émotions. Et comment on fait le lien avec la dyslexie affective ou émotionnelle chez les adultes ou les enfants dans ces cas-là ?
Je voudrais, Emmanuel, rappeler un joli proverbe wolof qui dit que l'on ne récite que ce que l'on a appris. Donc, imaginez que ces enfants grandissent avec une partie la plus importante de leur personnalité étouffée, refoulée ou inhibée. Mmh. Une bonne partie de ces enfants seront une sorte d'analphabète émotionnel. Ils vont très probablement refouler ce qu'ils ressentent. Ils se montreront parfois incapables de percevoir, de comprendre les émotions des autres. Et pour boucler la boucle, Emmanuel, les parents vont, dans ces cas de figure-là, acheter des tablettes numériques. Et de cette façon, les enfants feront comme eux. Et ce n'est pas seulement les enfants qui sont ainsi condamnés, malheureusement, Emmanuel. C'est déjà les petits-enfants qui sont exposés bien avant leur naissance.
Des analphabètes émotionnels, vraiment une formule à retenir et à méditer tous les jours. Et pour vous, la question de la semaine pour les familles concernées par le sujet, Ibrahima Giroud.
Emmanuel, comment les enfants peuvent-ils croire à nos déclarations d'amour pour eux quand ils voient que nous sommes plus attachés à nos téléphones portables ?
Une chronique d'Ibrahima Giroud à réécouter comme toutes les autres en podcast sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Merci à vous Ibrahima Giroud et merci à Adi Diagne à la technique pour RFI Full Full Day Mandincan puisque vous êtes à Dakar. Merci infiniment Ibrahima.
Merci Emmanuel.
Milliards de voisins, voilà, ça y est, j'ai le micro. Vous découvrirez l'incroyable destin de Sami Nouri, de l'Afghanistan en guerre, au défilé de haute couture. Il a rassemblé les immenses épreuves de sa vie et ses succès dans un livre, La machine à coudre. Ne manquez pas son histoire demain à 10h10, temps universel, ou bien sûr à écouter en podcast un peu plus tard. Et merci aussi à l'équipe.